Lorsque le drapeau tricolore a été remplacé quelques heures par le drapeau européen le 31 décembre pour marquer le début de la présidence française de l'UE, Emmanuel Macron a été accusé par ses détracteurs d'abandon de souveraineté. Souveraineté, un mot qui revient sans cesse à l'approche de la présidentielle.
Je suis fondamentalement attachée à la souveraineté de chacune des nations.
Notre souveraineté est sacrée.
C'est décider ce qu'on veut, où on veut, sur notre territoire.
Le débat sur la souveraineté nationale ou européenne est au cœur des clivages politiques. Et ce n'est pas nouveau. En 2005, les Français ont massivement rejeté le traité constitutionnel européen.
C'est le non qui l'emporte à ce référendum sur le projet de constitution européenne.
Depuis, deux camps s'opposent, les souverainistes de droite comme de gauche, face aux fédéralistes accusés de faire passer les intérêts de l'Europe avant ceux de la France. Au sein de l'Union, le ton s'est même récemment envenimé entre les institutions européennes et la Pologne lorsque le tribunal constitutionnel polonais a jugé le droit national supérieur au droit européen.
Les institutions de l'Union européenne agissent au-delà de leurs compétences.
De quoi agacer Emmanuel Macron qui lancera demain à Strasbourg la présidence française de l'UE.
Dès qu'il y a un problème, nous en revenons à cette vieille maladie française qui consiste à dire c'est l'Europe. Mais l'Europe, c'est nous. Tous les textes auxquels nous sommes soumis, nous les avons bâtis dans nos discussions, puis signés, puis ratifiés, souverainement.
Alors, souveraineté européenne et souveraineté nationale sont-elles complémentaires ou incompatibles? Pour défendre les intérêts de la France, faut-il désobéir aux traités européens? La présidentielle va-t-elle aussi se jouer sur ce clivage entre les souverainistes et les défenseurs de l'Europe?
À vous deux, en une phrase, quelle est votre définition de la souveraineté?
Alors la souveraineté, c'est la capacité d'autodétermination, c'est du point de vue interne la capacité de contrôler un territoire et ses frontières, oui. Et du point de vue externe, c'est l'indépendance à l'égard des ingérences étrangères.
Henri Guénot.
Non, alors pour moi, cette définition de la souveraineté est beaucoup trop large. La souveraineté, c'est quoi en définitive? C'est la possibilité pour une personne ou pour un peuple de pouvoir dire non. Quand on considère qu'une limite est franchie. Voilà. Et c'est quelque chose qui est inaliénable parce que tant qu'on a une conscience de peuple ou une conscience individuelle, eh bien on garde au fond de soi cette possibilité de dire non.
Voilà. Très bien. Mais écoutez, ces définitions sont très claires et on en vient à ce chiffre qui joue une sorte d'idée reçue.
Oui, selon l'Institut Jacques Delors, 20%, seulement 20% des lois en France ont une origine européenne. Alors ça va à l'encontre d'une idée reçue, Henri Guénot, et ça tendrait à montrer que finalement le poids des lois et des directives européennes en France est beaucoup moins important qu'on ne le pense.
Non, mais c'est un chiffre qui ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire, c'est 20% de quoi? Qu'est-ce qu'on mesure? Le nombre de textes, l'influence des textes européens sur les textes français? Enfin, je sais pas.
Est-ce que vous l'évalueriez à combien?
Mais j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le périmètre du droit européen et son influence sur le droit interne deviennent de plus en plus importants. On pourrait faire d'ailleurs le même constat pour les traités de libre-échange. C'est-à-dire que petit à petit, on est passé d'un droit entre les États à un droit qui, de plus en plus, intervient sur le pacte civique et le pacte social des États. Voilà. Et
donc, sur quoi, ça sur prend quoi, une concrètement, importance. Pour bien comprendre un exemple.
Je sais pas, vous faites la charte des droits fondamentaux et la Cour de justice décide que telle valeur doit être respectée. Oui. Et c'est énorme. C'est pas parce qu'elle a rendu une décision que ça ne pèse pas très très lourd sur l'ensemble de la législation. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres.
Mais... L'inspecteur, sur cette influence du droit européen sur les droits nationaux, il est grandissant ou il est à l'image de ce chiffre de 20% moins important qu'on ne le dit?
Non, il est en effet grandissant. Depuis 1964, hein, c'est le moment où la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé le principe de primauté du droit européen sur le droit national. C'était en 1964, l'arrêt Costa. Depuis, en effet, il y a une jurisprudence de plus en plus importante de la Cour de justice. Il y a des directives de la Commission européenne, il y a des règlements. Mmh. Et on a des principes très importants du droit européen qui sont d'une part l'application téléologique des traités, par la Cour de justice, c'est-à-dire on prend la finalité de l'Union européenne, c'est quoi la finalité? Oui. C'est une union de plus en plus étroite entre les peuples européens, et à partir de là, on admet que le droit européen doit réaliser cette fin. Plus on a le principe de l'effet direct, et donc par exemple pour les règlements, de fait, ils s'appliquent directement, même sans avoir besoin de transposition, seules les directives ont besoin d'une transposition en droit interne.
Deux précisions. Les directives ont besoin d'une transposition, sauf quand la Cour de justice considère qu'elles sont assez précises pour pouvoir être appliquées directement. Et deuxièmement, effectivement, l'origine de tout ça, c'est un arrêt de la Cour de justice à l'époque de la communauté, européenne. La primauté du droit européen n'est inscrite dans aucun traité. Aucun traité. On n'a jamais voulu assumer cette primauté. Elle a failli être inscrite dans la Constitution européenne. Et le président de la Cour de justice, il n'y a pas très longtemps, donné une intervention en disant, bon, on a sorti tout ça parce que ça c'était comme les prémices d'un État fédéral, on en a gardé la substance.
Vous êtes à peu près d'accord. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est que dans ce carcan du droit européen que l'on décrit, si l'on prend les deux dernières grandes crises que l'Europe a subies, c'est-à-dire la crise sanitaire et la crise financière de 2008, à chaque fois, en fait, les traités ont volé en éclats et les États-nations ont fait leur propre politique ou en tout cas n'ont pas suivi ce qu'ils avaient même voté.
Alors qu'est-ce que ça veut dire voler en éclats pour un traité enfin,
non, voler en éclats. On était distendu, voilà.
Ce qu'il faut savoir, c'est à quel moment, effectivement, les règles communes que les États membres ont acceptées, bien sûr, sont suspendues. Dans quelles circonstances?
Dans le cas de la pandémie.
Oui, bien sûr, dans le cas de la pandémie, ça a été un moment très important, effectivement, en 2020. Mais même avant, par exemple, en 2003, il y avait une procédure pour déficit excessif qui aurait dû être menée contre la France et l'Allemagne. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, il y a eu l'Italie, l'Espagne, le Portugal qui auraient pu être menacés. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il y a en effet une certaine souplesse dans l'application des traités. Ce n'est pas une sorte de carcan, de cage de fer totalement rigide. Il y a des gens derrière, des États qui négocient au Conseil européen. C'est quand même les orientations stratégiques. Ce sont nos chefs d'État et de gouvernement qui les prennent. Bon, la Commission qui a le monopole de l'initiative législative. Et puis, on a quand même un Parlement et on l'élit, ce Parlement. Donc, voilà, voler en éclats pour un traité, je dirais non. Mais il peut y avoir des raisons de le suspendre.
Alors, c'est pas assez souple.
C'est ça, la souveraineté. C'est Chirac et Schröder disant à la Commission européenne, on ne respectera pas parce qu'on ne peut pas. Et puis, c'est comme ça. Voilà. C'est ça, la souveraineté. C'est à un moment donné de dire, écoutez, c'est bien, les traités, les règles. Et moi, en 2008, c'est exactement ce qui s'est passé, la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de déclaration.
Pendant la crise financière, 2008.
Non, on n'a pas respecté les traités, notamment à propos de la Banque centrale, au sujet de la Banque centrale européenne. Et je me souviens d'une anecdote dans une réunion de l'Eurogroupe où le ministre, je crois que c'est le ministre danois, le ministre des Finances danois, donc pays très...
orthodoxe.
Le ministre des Finances, en tout cas, était très... ou suédois, peut-être. Qui était très, très européiste. Il avait en face de lui la commissaire européenne à la concurrence. Il disait, mais tout ça, c'est contraire au traité. Et il lui a dit, madame, vous devriez être la solution et vous êtes le problème.
Épisode récent cette cas de souveraineté.
On va vous soumettre.
La Pologne, le tribunal constitutionnel polonais a considéré que le droit polonais primait sur le droit européen, ce qui n'a pas plu à la Commission européenne. Attendez, vous me laissez finir, s'il vous plaît, et qui a lancé une procédure d'infraction. On va regarder Paolo Gentiloni, le commissaire européen à l'économie, et après on en parle.
Le collège a décidé d'engager une procédure d'infraction à l'encontre de la Pologne en raison de graves préoccupations concernant le tribunal constitutionnel polonais et sa jurisprudence récente. L'Union européenne est une communauté de valeurs et de droits, et les droits des Européens prévus par les traités doivent être protégés, quel que soit l'endroit où ils vivent dans l'Union.
C'est l'inspecteur dans cette affaire, comme dans d'autres précédemment. À chaque fois, les juristes débattent et on ne sait pas dans la hiérarchie qui finalement prime sur l'autre.
Alors non, la hiérarchie des normes, elle est parfaitement claire. Par exemple, dans la Constitution française de 1958, on a l'article 55 qui dit de manière parfaitement claire que les traités sont supérieurs aux lois. Ensuite, il y a toute une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a renforcé vraiment le principe de primauté du droit européen. Donc, il n'y a aucun mystère. Donc, si vous voulez, c'est assez intéressant, effectivement, cet arrêt... avec une mise en scène, tout d'un coup, le droit européen n'est pas supérieur au droit national. Enfin, il faut voir de quoi il s'agit quand même. C'est l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne. La création d'une chambre disciplinaire des juges, c'est-à-dire en fait un principe fondamental de l'état de droit. Il s'agit, il y a eu d'autres entorses.
Qui a été donc bafoué par la Pologne.
Qui a été bafoué par la Pologne, c'est-à-dire la volonté du PiS de mettre au pas la justice. C'est quelque chose qui est contraire à l'article 2 du traité de l'Union européenne. Quand la Pologne est entrée, elle a accepté le traité, il y a des règles du jeu, on a un club de démocratie, on a des règles. Si on n'est pas content, on s'en va. Voilà.
Donc on ne peut pas dire alors, non, là, ça.
Non, si on n'est pas content, on n'applique pas la règle. Et puis après, on peut pas
on
vous mettre.
De, on
peut pas
on
vous
prend
mettre,
l'argent
on peut pas vous mettre dehors. Voilà.
Mais on prend l'argent
et,
de l'Europe.
Et, voilà. Et si les autres veulent partir de leur côté pour faire autre chose, non, c'est pas si simple. D'abord, sur cette affaire polonaise, il y a deux problèmes distincts. Le premier était le débat sur la supériorité du droit communautaire sur le droit constitutionnel polonais. Donc là, les choses sont effectivement très simples. Il n'y a aucun pays en Europe où le droit communautaire l'emporte sur le droit constitutionnel. Aucun. Il n'y a que la Cour de justice et la Commission qui pensent le contraire. Voilà, c'est aucun. Elle a demandé à la Cour de Karlsruhe, elle a demandé aux Irlandais, elle a demandé... Enfin, nulle part. Pour une raison simple, c'est que les juridictions nationales ne tiennent leur pouvoir que de la Constitution. En revanche, la hiérarchie des normes entre le droit communautaire et la loi, elle est réglée en France, mais par la Constitution, hein, l'article 55 de la Constitution. Donc le seul problème qui se pose est celui-là, on y reviendra. C'était distinct de la question de la réforme de la justice, qui pose un problème par rapport aux valeurs européennes, dont on peut discuter, mais qui n'a rien à voir en réalité avec le problème de la hiérarchie des normes européennes.
Mais c'est important les valeurs européennes, toutefois, non ? Tout de même, une homogénéité, c'est important ou pas ? Il y ait homogénéité de ces valeurs et respect de ces valeurs, non ?
Mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire que oui et non. Oui, parce qu'on a un patrimoine commun de valeurs, très bien. Oui. Mais après, l'interprétation, vous savez, par exemple, la CEDH un jour a dit...
La Cour européenne des droits de l'homme.
Voilà, des droits de l'homme a dit, si on respecte la Convention européenne des droits de l'homme, il faut des syndicats dans l'armée. La France n'a pas appliqué cette... Et il n'y avait pas de raison de l'appliquer, en réalité, parce que ça allait... Trop loin. Bon, si demain la Cour de justice dit vous n'avez pas l'indépendance du parquet, c'est pas conforme aux valeurs européennes.
Très bien. Non.
Vous voyez, on a compris. La laïcité à la française, c'est pas conforme aux valeurs européennes. On fera quoi ?
C'est l'inspecteur.
Non, mais en fait, je voudrais quand même donner deux précisions. D'une part, l'Union européenne protège l'identité constitutionnelle des États, de même que la diversité culturelle. Donc jamais l'Union européenne ne s'est imaginé qu'elle allait détruire les constitutions des États. D'autre part, quand il y a eu le traité de Maastricht, évidemment, il y a une révision constitutionnelle. C'est-à-dire que nous avons révisé notre constitution pour pouvoir nous mettre en conformité. Donc, il ne faut pas créer de faux problèmes. Les vrais problèmes, c'est la politique européenne. Est-ce qu'on est pour ou contre ? Qu'est-ce qu'on veut modifier ? Dans l'équilibre des institutions, il peut y avoir des choses qu'on veut réformer. C'est très bien. Par exemple, moi, je suis favorable à ce qu'on donne aussi l'initiative législative au Parlement. Maintenant, c'est dans l'accord de coalition allemand. D'accord, on réforme l'Europe. Mais il ne faut pas se crisper sur les traités. Je pense que c'est un faux problème. Et on ne désobéit pas aux traités, on les viole. Ça veut dire qu'on trahit ses promesses, ça veut dire qu'on perd sa crédibilité à l'échelle internationale. Ce sont les États autoritaires ou totalitaires qui le font, pas les démocraties. Il y a un principe du droit international qui est pacte sunt servanda. Les traités doivent être, honorés. Donc vous imaginez si on changeait il y avait des alternances politiques en permanence. Et alors...
Oui, ça s'appelle la démocratie.
Non, la démocratie, c'est pas au-dessus du droit international. Non, le droit international, il doit être respecté.
Ça n'est pas, vous le savez très bien, c'est pas du droit international. Ça n'a rien à voir avec le droit de la mer, la liberté de passage dans les détroits. Rien, ça n'est pas ça. Ça concerne, encore une fois, le pacte civique et le pacte social. Et c'est la même évolution qu'on constate avec les traités de libre-échange. Donc on n'est plus du tout dans le droit international. On est dans le droit interne. La question se pose très différemment.
Conservons un peu de temps pour évoquer la citoyenneté européenne, éventuellement, avec vous, Nadia.
Avec un événement majeur et intéressant qui a été lancé non sans mal. C'était le 9 mai dernier. Les citoyens européens dans leur ensemble ont été invités à exprimer leurs attentes vis-à-vis de l'Union européenne, à réfléchir ensemble sur les compétences, sur les politiques et sur les institutions européennes. C'est donc cette conférence sur l'avenir de l'UE. C'est un exercice de démocratie participative défendu notamment par Emmanuel Macron. Concrètement, ça se passe sur une plateforme en ligne qui est en plein de langues, évidemment. Également lors de débats, de panels organisés dans les États membres. Chaque citoyen, donc vous, nous tous, on peut aller proposer des changements autour de plusieurs thèmes, en l'occurrence l'économie, l'immigration, l'état de droit ou encore la justice. C'est un beau projet sur le papier, mais qui se heurtait à au moins deux difficultés. D'abord, il n'a pas vraiment suscité l'engouement. C'est même le moins qu'on puisse dire. Sur le site internet dédié, on voit que seuls 42 000 citoyens, donc européens, tout pays confondu, ont apporté
500
leur contribution. C'est 0,01% de l'ensemble de la population. Ensuite, quand on entre dans le détail des propositions, c'est intéressant de le faire, d'aller sur le site, on voit que ce sont les citoyens qui sont déjà convaincus, c'est-à-dire les citoyens qui veulent plus d'Europe, qui font des propositions, par exemple, qui proposent l'introduction de listes transnationales aux élections, ou encore le renforcement du Parlement de l'Union européenne. En tout cas, les conclusions, elles vont être intéressantes, elles vont être rendues au printemps prochain. C'est l'inspecteur, ça a quand même le mérite de poser une question qui n'a pas tellement été... une question qui est posée, mais à laquelle on ne répond pas souvent, c'est qu'est-ce que la citoyenneté européenne ? Comment est-ce qu'on l'a définie ?
Alors, le traité de Maastricht l'a défini, puisque est citoyen de l'Union européenne, tout citoyen qui est citoyen d'un État.